Bien, prenons nos Bibles et regardons ensemble dans Ésaïe chapitre 21. Nous allons parcourir tout ce chapitre, Dieu voulant. Et je voudrais vous parler du règne souverain de Dieu. Il y en a qui lisent le livre d'Ésaïe et pensent que c'est un livre prophétique au sujet des choses à venir. Ce qui est sûr, c'est que lorsque Ésaïe a prononcé ce que nous lisons, c'était encore dans le futur. Mais du point de vue historique, ces chapitres que nous sommes en train d'étudier nous montrent comment, en regardant en arrière, tout ce que Dieu a prononcé à travers son prophète Ésaïe s'est réalisé déjà dans l'histoire. Et voilà un exemple ici dans Ésaïe chapitre 21. C'est un oracle, cela veut dire une révélation que Dieu a donnée à Ésaïe concernant la chute de Babylone et aussi du pays d'Édom. Les Édomites étaient les descendants d'Ésaü. Et nous voyons comment Dieu, à ce temps-ci, après tant d'années, a prononcé ses jugements contre les descendants d'Ésaü. Lorsque Ésaïe a prophétisé cela, nous savons que il y avait encore 150 ans qui devaient passer avant que cela ne se réalise. Mais le point en est que lorsque nous lisons maintenant, en regardant dans l'histoire, comment tout cela s'est réalisé exactement comme Dieu l'avait prophétisé. C'est pourquoi le titre de cette étude, c'est le règne souverain de Dieu, parce que Dieu règne sur toutes les nations. Il y en a d'autres versets qui nous montrent cela. Avant de commencer dans notre étude dans Ésaïe 21, je voudrais parcourir, par exemple, Daniel chapitre 4 et le verset 17. Daniel chapitre 4 et le verset 17. Et là, nous lisons concernant le décret de Dieu et tout ce qu'il avait annoncé, prononcé. Et Daniel était en effet, il a vécu le temps de Babylone. Lorsque Dieu a suscité Babylone pour aller en Israël et enlever la tribu de Juda, et lorsque Daniel était en effet en captivité en Babylone, le temps qui était annoncé par Ésaïe 150 ans plus tôt, nous lisons dans Daniel 4, verset 17, c'est un songe de Nebuchadnezzar, mais Daniel dit, cette sentence est un décret de ceux qui veillent. Cette résolution est un ordre des saints, afin que les vivants sachent, voilà ceci, que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, qu'il le donne à qui il lui plaît, et qu'il y en élève le plus vil des hommes. Alors voilà une description du règne souverain de Dieu. Et c'est ce que nous voyons ici dans Ésaïe chapitre 21, tout ce qui était prophétisé au sujet de Babylone, qui au moment où Ésaïe prophétisait, Babylone n'était même pas encore une nation puissante. C'était les Assyriens qui dominaient, mais déjà le Seigneur annonce la défaite de Babylone. Ici, et nous avons déjà vu ça dans nos études précédentes, par exemple dans Ésaïe chapitre 13 et le verset 17, le prophète Ésaïe a annoncé dans le verset 17 d'Ésaïe 13, « Voici, j'excite contre eux les Mèdes, qui ne font point cas de l'argent et qui ne convoitent point d'or. » C'est-à-dire, les Mèdes et les Perses devaient être suscités pour venir contre Babylone. Et c'est de ça que nous sommes en train de lire maintenant dans Ésaïe chapitre 21. Je dis tout cela parce que nous sommes des prédicateurs. Et nous devons pouvoir prêcher ces passages dans leur contexte historique et puis en tirer maintenant des leçons pour ceux de nos jours. Et la leçon principale que nous voyons ici, c'est que c'est Dieu qui règne. Il n'est pas un petit Dieu qui est à la disposition des hommes, mais c'est lui qui a tous les hommes entre ses mains. C'est ça que Paul a prêché dans Actes 17, dans son message qu'il avait annoncé, prononcé en Actes chapitre 18, que c'est écrit dans Actes 17 plutôt, le verset 26. Actes 17 et le verset 26. « Et il a fait d'un seul sang chaque nation d'hommes pour habiter sur toute la surface de la terre et a déterminé leur temps préétabli et les limites de leur habitation. » Donc, il n'y a rien dans ce monde qui bouge tant que Dieu lui-même ne l'ordonne. Que ce soit une armée qu'il suscite, que ce soit la famine, que ce soit une tempête, tout cela vient de Dieu. Alors, ce que nous sommes en train de voir ici dans Ésaïe 21, c'est comment Babylone serait attaquée par les Mèdes. Et effectivement, cela s'est passé ainsi. Ésaïe avait prophétisé cela environ 700 ans avant Jésus-Christ. Mais la réalisation de cela a eu lieu à peu près 539 ans avant Jésus-Christ, quand nous voyons historiquement comment cela s'est passé. Donc, Babylone était un pays plat, mais abondamment arrosé. La destruction de Babylone, qui est si souvent prophétisée ici par Ésaïe, en effet, dans la Bible, est typique de la destruction du grand ennemi de l'Église dans le Nouveau Testament. Et nous voyons ça surtout dans le livre d'Apocalypse que nous allons considérer dans quelques moments. Mais comment est-ce que la destruction de Babylone est annoncée? Voyons dans Ésaïe 21 et le verset 1 et 2, c'est écrit « Oracle sur le désert de la mer, comme s'avance l'ouragan du midi. » Il vient du désert, du pays redoutable. Et c'est écrit, une vision terrible m'a été révélée. Ce n'est jamais facile de se lever et prêcher la condamnation des pécheurs, mais ça fait part du message que nous avons annoncé. Bien sûr, le message du salut pour les élus de Dieu, mais un message de condamnation pour le reste. Donc ici, une vision terrible m'a été révélée. L'oppresseur opprime, le dévastateur dévaste. Et c'est écrit, monte Élam, assiège Médie, je fais cesser tous les soupirs. Donc quand ça parle là d'Élam ou bien de Médie. Il s'agit là des anciens noms des peuples de la Perse. Cela correspond aujourd'hui à Iran. On entend parler dans les nouvelles du pays d'Iran, toujours à la une. C'est des descendants de ce peuple de la Perse. Et encore, quand nous voyons dans l'histoire, effectivement, l'Empire perse a conquis l'Empire babylonien. Et voilà, Ésaïe voit ici prophétiquement ses armées marcher sur Babylone. Voilà le contexte historique de ces deux premiers versets, quand c'est écrit le fardeau ou bien l'oracle, parce que le mot oracle veut dire ce qui pèse, un fardeau. Sur le désert de la mer, Babylone est appelé ici le désert de la mer parce que la grande plaine de Babylone était divisée par des lacs et des marais, appelé ici donc une mer. Mais continuons à lire dans le verset 3 à 10. Alors, c'est ici que nous voyons précisément de qui Dieu parle ici lorsqu'il Ésaïe dit, une vision terrible m'a été révélée, l'oppresseur opprime. Nous voyons que l'oppresseur devait être la Syrie, ou bien devait être plutôt la Perse, les Mèdes et les Perses qui ont conquis Babylone. Et voilà l'explication dans le verset 3 à 10. C'est pourquoi mes reins sont remplis d'angoisse. Encore, ça démontre que les prophètes qui avaient à prophétiser ces choses, comme nous, les prédicateurs, ce n'est pas quelque chose que nous pouvons prendre à la légère, de prononcer des jugements, la condamnation contre les hommes. Et ça pèse réellement au cœur. C'est pourquoi mes reins sont remplis d'angoisse, des douleurs me saisissent, comme les douleurs d'une femme en travail, les spasmes m'empêchent d'entendre, le tremblement m'empêche de voir. Oh, combien de fois quand nous lisons la parole et nous évaluons ces paroles de Dieu, combien ça doit nous toucher au fond de notre être. Nous ne sommes pas appelés simplement à se lever et prêcher pour informer. Non, il y a les âmes des hommes qui sont concernées et la gloire de Dieu surtout. Donc, c'est pourquoi nous ne devons pas dévier, mais le fait de nous préparer et de lire la parole d'abord pour nous, et puis ensuite de l'annoncer, nous pouvons réellement nous identifier avec ces paroles d'Ésaïe. Ici, le tremblement m'empêche même de voir. Mon cœur est troublé. La terreur s'empare de moi. La nuit de mes plaisirs devient une nuit d'épouvante. Vous savez qu'il y en a qui acceptent que oui, Dieu est souverain et ils présentent ça d'une manière froide. C'est-à-dire, oh, Dieu est souverain, et que sera, sera. Nous ne voyons pas cette attitude avec le prophète Ésaïe, et je ne crois pas que c'est l'attitude d'un véritable serviteur de Dieu, simplement de se lever froidement, dire Dieu est souverain, et ce qui sera, sera. Non. Le fait que Dieu est souverain, et qu'il sauve qui il veut, mais il condamne qui il veut, voilà un message qui nous prions qu'en lisant et en préparant de prêcher, que nous soyons aussi dans l'épouvante de craindre un tel Dieu et ne pas simplement se lever et prêcher ça pour informer des gens, mais de savoir que nous sommes devant un Dieu saint, un Dieu souverain qui fait comme il veut et d'évaluer même dans nos cœurs, est-ce que réellement nous sommes à lui ou non? Est-ce que nous l'adorons comme il se doit. Ici, tellement cela a touché Isaïe, il dit, on dresse la table, la garde veille, on mange, on boit, debout, prince. Oignez le bouclier, car ainsi m'a parlé le Seigneur, va, place la sentinelle, qu'elle annonce ce qu'elle verra. Elle vit de la cavalerie, des cavaliers, deux à deux, des cavaliers sur des ânes, des cavaliers sur des chameaux, et elle était attentive, très attentive. Ici, en train de prévoir l'armée qui devait être suscitée pour venir contre Babylone. Puis, verset 8, elle s'écria comme un lion. « Seigneur, je me tiens sur la tour toute la journée et je suis à mon poste toutes les nuits. Et voici, il vient de la cavalerie, des cavaliers, deux à deux. » Elle prit encore la parole et dit, « elle est tombée qui ? Babylone. » C'est ainsi que nous savons que cela, cette prophétie est adressée surtout à la chute de Babylone. Et toutes les images de ces dieux sont brisées par terre. Voilà encore pourquoi Dieu juge des nations. C'est à cause de leur idolâtrie. Parce que Dieu n'a pas de rival. Il est Dieu et tout être lui est soumis en toutes choses. Et donc verset 10, « Ô mon peuple, qui a été battu comme du grain dans mon air, ce que j'ai appris de l'Éternel des armées, Dieu d'Israël, je vous l'ai annoncé. » Voilà encore un principe que nous devons tenir, que lorsque nous nous levons devant les hommes pour prêcher, que nous ne prêchons pas la spéculation ou bien des théories, mais d'annoncer exactement ce que Dieu dit dans sa parole. C'est ce qu'il dit là, ce que j'ai appris de l'Éternel des armées. C'est ce qu'il est comme le Dieu souverain, l'Éternel des armées, Dieu d'Israël, Dieu de son peuple. Et il dit, je vous l'ai annoncé. Alors, Dieu a tellement touché Isaïe au point où il parle des angoisses qui l'ont saisi dans ses reins, les douleurs qui l'ont saisi. Et il parle même des douleurs d'une femme en travail. Alors que le peuple s'effondre de peur et de douleur, la nation se prépare à la guerre. C'est pourquoi il dit « Lève-toi, prince, et oint le bouclier. » Ce sont des termes de se préparer pour la guerre. Dieu est en train d'annoncer à travers Isaïe des temps difficiles, des conflits qui devaient se passer selon son ordre. Quel que soit ce qui se passe, c'est Dieu qui est toujours la première cause en toutes choses. Alors, quand il annonce ici dans le verset 9, « Babylone est tombée », ce rapport est venu à la sentinelle. Et cette scène dramatique s'est réalisée lorsque l'empire Médo-Perse a conquis Babylone. Mais comme je disais tout à l'heure, cela est utilisé, si vous voyez dans Apocalypse chapitre 18, historiquement cela s'est passé. Mais Babylone représente aussi l'ennemi de Dieu et représente en fait la fausse religion. Quand Dieu parle des images, toutes les images de ces dieux sont brisées par terre. Babylone est utilisée alors dans le livre d'Apocalypse pour décrire la fausse religion que Dieu devait et doit détruire, anéantir entièrement et tous ceux qui font part de la fausse religion. C'est ce que Jean a vu dans Apocalypse 18, verset 1. « Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité. et la terre fut éclairée de sa gloire. Je crois que dans ce chapitre 18, le verset 1, quand c'est écrit un autre ange, le mot ange dans le grec signifie un messager. Et quand c'est écrit un autre ange, c'est-à-dire un messager différent que tout autre messager. Et c'est écrit qu'il y avait une grande autorité. De qui ça parle ici? C'est du Seigneur Jésus-Christ. Et la terre fut éclairée de quoi? De sa gloire. On ne glorifie pas les simples anges. Donc le mot ange ici, quoique les traducteurs ont laissé cela exactement comme c'est dans le grec, mais dans le grec, le mot signifie messager. Donc on peut lire cela. Après cela, je vis descendre du ciel. Où est-ce que Christ règne maintenant? Il est au ciel. Et comment est-ce qu'il agit dans le monde? Selon la grande autorité qui lui a été donnée de son Père. Après sa mort, sa résurrection, et qu'il est monté au ciel, le Père lui a donné toute autorité, sur toute chair, afin qu'au nom de Jésus, tout genou s'abaisse. Alors, voilà la vision que Jean voyait. Il faut rappeler que Jean traversait des moments difficiles dans le premier siècle, où il semblait que la fausse religion ou bien l'ennemi gagnait le terrain. Mais ici, c'est un monde d'encouragement, de savoir que non, tout ce qui se passait, comme c'est écrit ici, devait avoir sa fin. Et donc, verset 2, il cria d'une voix forte, disant, « Elle est tombée, elle est tombée. » Vous voyez, c'est le même langage que nous avons ici dans Ésaïe 21, verset 9, au sujet de Babylone historique. Mais Babylone spirituelle aussi a sa fin. Et c'est écrit, « Babylone, la grande, elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité. » Ça parle de l'impudicité spirituelle. Ça parle de ceux aujourd'hui qui parcourent après une religion d'œuvre et non pas l'Église ou bien ce que Christ a établi par sa vie et sa mort pour sauver un peuple, son véritable peuple. Le reste est comparé à des marchands de la terre et se sont enrichis par la puissance de son luxe. Il faut dire qu'il y a beaucoup de luxe dans la fausse religion. Et c'est ce que les gens aiment poursuivre. Alors, revenons dans notre texte ici, dans Ésaïe 21, nous voyons un double accomplissement en ce qui était prophétisé. Bien sûr, dans l'histoire, Babylone était tombée, historiquement, physiquement, mais il y a aussi une Babylone spirituelle qui est aussi dévouée à la condamnation, qui est la prophétie est contre cette Babylone-là, qui est la fausse religion. Et donc, nous ne devons pas nous inquiéter au moment où il semble que cette Babylone spirituelle domine, nous savons que cette Babylone a sa fin. Dans Apocalypse 18, on pouvait peut-être passer tout le temps dans Apocalypse 18 pour voir la condamnation de Babylone spirituelle, mais que cela suffit dans Apocalypse chapitre 18 et le verset 20, c'est écrit, « Ciel, réjouis-toi sur elle. Et vous, les saints, qui sont les saints, sont ceux qui ont été sanctifiés, justifiés par le sang de Christ, pour qui il est mort. Les apôtres et les prophètes, réjouissez-vous aussi. » parce que ceux-là étaient persécutés à mort par cette Babylone spirituelle. Mais c'est écrit, car Dieu vous a fait justice en la jugeant. Donc, voilà la fin de la prophétie concernant la chute de Babylone. Mais maintenant, dans le reste de ce chapitre et ce message, dans Ésaïe 21, le verset 11 à 17, nous voyons inclus dans cette prophétie de condamnation, c'est une prophétie contre Édom et l'Arabie. C'était des régions au sud-est du pays d'Israël qui sont mentionnées ici. Et nous lisons Oracle sur Dama. On me crie de Séir. Ce sont des noms qui sont synonymes pour le pays d'Édom. Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Isaïe était comme une sentinelle qui devait annoncer le danger qui arrive. Donc la sentinelle répond, le matin vient et la nuit aussi. Si vous voulez interroger, convertissez-vous et revenez. Donc en même temps que le jugement est annoncé, il y a un appel ici à la repentance. Là encore, nous voyons un exemple de la manière que nous devons prêcher l'évangile. Nous ne savons pas qui sont les élus et qui ne le sont pas. Nous avons à annoncer que si quelqu'un n'est pas en Christ, donc c'est la condamnation qui l'attend. C'est la condamnation que Dieu a ordonnée pour cela. Mais en même temps, nous annonçons la repentance, se repentir, comme c'est écrit ici, convertissez-vous et revenez. C'est ça la repentance, se tourner vers Dieu et son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Quelqu'un peut-être va dire, oui, mais l'homme ne peut pas se repentir. C'est Dieu qui donne la repentance. Et cela est vrai. Mais en même temps, c'est un ordre qui nous est donné d'annoncer. Ce n'est pas une invitation. L'évangile n'est pas une invitation. Ici, c'est écrit, convertissez-vous et revenez. Et c'est tout ce que nous devons faire en prêchant l'évangile, sans savoir comment Dieu va utiliser ce message. Pour certains, ça ne fera qu'augmenter leur condamnation. Et c'est à cette fin que Dieu les a déjà ordonnés. Mais pour d'autres, Dieu s'en sert pour convertir leur cœur. Alors, nous voyons ici donc les charges contre Édom et l'Arabie. Dans le verset 11, Douma, c'est un synonyme pour les Édomites qui étaient d'origine sémitique, traditionnellement descendants d'Ésaü, le frère de jumeau de Jacob, Jacob et Ésaü. Jacob, Dieu a dit, il a aimé, mais Ésaü, il a haï. Il les a ordonnés à la condamnation depuis le départ. Pourtant, leur jugement n'était pas immédiat. Voilà des années plus tard, plus de 500 ans plus tard, que ce pays existe. Et puis, c'est maintenant que Dieu annonce leur condamnation. Mais en même temps que les Édomites, donc ça c'est le fardeau ou bien l'oracle contre Douma, c'était un autre nom ancien pour le royaume d'Édom. Et c'était, quand c'est écrit dans le verset 11, on me crie de Séir. Séir était une région montagneuse où les Édomites ont trouvé leur refuge contre les ennemis pendant des années. Mais voilà, tout cela devait arriver à sa fin. Mais en même temps, l'oracle sur l'Arabie. Si vous voyez sur une carte, vous allez voir que ces deux pays étaient voisins, où les Édomites habitaient au sud-est du pays d'Israël, mais allaient plus au sud. Voilà ce qui est appelé l'Arabie. Et donc, encore, l'oracle sur l'Arabie, vous passerez la nuit dans les broussailles de l'Arabie, caravane de Dédan, portez de l'eau à ceux qui ont soif, les habitants du pays de Téman, portent du pain aux fugitifs, car ils fuient devant l'épée nue, avant l'arc tendu, devant un combat acharné, car ainsi m'a parlé le Seigneur. Donc encore, ce n'est pas des spéculations ici, mais les réalités de ce qui devait se passer. Encore une année, comme les années d'un mercenaire, et c'en est fait de toute la gloire de Kedar. Il ne restera qu'un petit nombre des vaillants archers, fils de Kedar, car l'Éternel, le Dieu d'Israël, l'a déclaré. Rappelons-nous, c'est le titre de ce sujet. C'est le règne souverain de Dieu. Il devait suffire simplement de dire le règne de Dieu, mais il y en a que nous connaissons aujourd'hui qui ont l'autorité de régner, mais qui n'ont pas de pouvoir. Ils ne peuvent pas diriger. Et tôt ou tard, ils sont enlevés de leur pouvoir, mais tel n'est pas le cas de Dieu. Il règne, mais son règne aussi est souverain. Donc ici, quand il parle de l'Arabie, les Arabes vivaient dans des tentes et élevaient du bétail. C'était leur manière de vivre. Mais ici, c'est prophétisé qu'une armée destructrice serait amenée sur eux et fera d'eux une proie facile. Donc voilà leur fin qui était annoncée. Nous ne savons pas dans quelles difficultés nous pouvons être amenés avant de mourir. Nous savons que nous allons tous mourir, mais pour certains, c'est Dieu a déjà prévu une mort difficile. Ici, c'est mentionné la soif dans le verset 14. Donc, la famine, la manque de nourriture qui était nécessaire pour eux de soutenir leur vie. Je sais que d'autres, ça parle ici, devaient fuir devant les épées, devant l'épée nue, devant l'arc tendu. Qui fait tout cela? Quand nous regardons autour de nous, et peut-être certains d'entre nous vivent dans des pays où cela est une réalité. Il y a des guerres civiles et autres choses qui passent, mais qui ordonne tout cela? Selon les Écritures, c'est écrit dans le verset 17, la dernière phrase, « Car l'Éternel, le Dieu d'Israël, l'a déclaré. » Ce n'est pas peut-être ce que les hommes aiment entendre, mais la réalité, c'est que c'est Dieu qui règne souverainement sur toutes choses. Nous ne pouvons pas être sûrs de la manière que Dieu doit nous enlever de ce monde, parce qu'il faut savoir que même les enfants de Dieu ont subi les attaques de l'ennemi et sont morts. Mais leur espérance est que si Christ est mort pour eux, leurs âmes sont sauvées. Par contre, ceux-ci qui sont les ennemis de Dieu et de tout bien, leur mort ne pouvait que les conduire davantage à la condamnation éternelle. Pendant qu'ils sont en vie, leur état est mieux que ce qui devait les attendre à l'autre côté de la mort. Je sais que souvent, si quelqu'un est malade ou qui souffre beaucoup
Et puis qu'il est mort, les gens disent, ah, mais il est dans un meilleur état maintenant. Pas nécessairement. Si ce n'est pas quelqu'un pour qui Christ est mort, donc leur état de l'autre côté de la mort n'est pas mieux. Ils ne sont pas dans un meilleur état. Mais heureux ceux qui meurent, que lorsqu'ils meurent en Christ. Ils meurent sachant que lorsque Christ est mort, il a payé leur dette. Alors voilà l'oracle que Ésaïe avait annoncé, non seulement contre Édom, les descendants d'Ésaü, mais ici contre l'Arabie, les Arabes qui vivaient à l'époque. Je sais que c'était, comme c'est écrit dans le verset 17, « Il ne restera qu'un petit nombre des veillants archers, fils de Kédar. » Mais un reste, ce n'est pas tout ce qui devait être tué à cette époque. Dieu a préservé un reste. Et si vous regardez dans Actes chapitre 2, lorsque Pierre prêchait le jour de Pentecôte, il y avait des Arabes qui étaient là, qui se sont convertis à Christ. Voilà pourquoi Dieu n'a pas complètement anéanti ces Arabes, parce que c'était nécessaire que ceux-là arrivent à connaître Christ et ceux pour qui Christ lui-même a donné sa vie. Regardez ça dans Actes chapitre 2 et le verset 11. Actes chapitre 2 et le verset 11. Notons, qui était là parmi ceux qui ont entendu le message des apôtres ce jour de Pentecôte? C'est écrit, Crétois et Arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Quelles merveilles de Dieu? Les merveilles concernant la manière que Dieu justifie des pécheurs. Et Dieu a fait en sorte que ceux qui étaient à Jérusalem ont parlé dans leur langue pour qu'ils puissent entendre. Ce n'était pas du bruit comme les gens disent aujourd'hui, le parler en langue. Non, c'était de véritables langues que ceux-là ont compris. Pourquoi? Parce que par ce moyen, Dieu devait, par son esprit, les attirer à Christ qui est mort pour eux. Alors, Ésaïe, ici dans notre texte, a décrit les réfugiés, en effet, d'une attaque contre l'Arabie, dans Ésaïe 21, pour finir maintenant, et c'était des compagnies itinérante des Danites, c'est ça le sens du mot des dents qui est mentionné, caravane dans le verset 13. Ils avaient soif, ils avaient besoin de pain parce qu'ils ont fui les épées et l'arc tordu et la détresse de la guerre. Mais Dieu a précisé même le moment, c'est pourquoi aucun détail ici n'est laissé au hasard. Il n'y a pas d'hasard en ce qui concerne Dieu. C'est écrit, dans un an, la gloire de Kédar échouera. Et compte tenu de l'époque d'Ésaïe, l'attaque contre l'Arabe devait venir plus tôt que plus tard. Il dit, dans un an. Alors, quel Dieu majestueux que nous avons, quel Dieu glorieux qui sauve qui il veut, mais aussi qui condamne qui il veut. Tel est le Dieu de la Bible. Et nous avons besoin de l'annoncer ainsi de nos jours, parce qu'il y a peu qui ont des prédicateurs qui prêchent le Dieu de la Bible. Ils ont un Dieu de leur imagination, ils prêchent ce Dieu-là, petit dé, et des gens poursuivent ce Dieu-là, mais c'est un Dieu qui est entre les mains des hommes. C'est un Dieu qui dépend de la décision de l'homme pour accomplir ce qu'il veut accomplir. Autrement, il ne peut pas agir. Ça, ce n'est pas le Dieu de la Bible. Dieu est souverain, il règne souverainement. Il a déjà choisi le peuple qu'il devait sauver, pour qui Christ est venu dans ce monde, et ce salut est sûr en Jésus-Christ. Mais si Christ n'est pas mort pour un pécheur, aucun espoir. Ce n'est pas à force de pousser les gens à se convertir et prendre leur décision que ça va changer maintenant la décision de Dieu, non. Dieu sauve qui il veut et il condamne qui il veut, et que la gloire revient à lui seul. Et voilà le Dieu que nous avons à déclarer, comme Ésaïe 21, 17 le dit. Car l'Éternel, le Dieu d'Israël, Israël signifie prince avec Dieu, c'est Christ qui est le véritable Israël, et puis ceux que Dieu a élus en lui, que ceux-là sachent qu'il est l'Éternel, et c'est lui qui déclare cette chose. Alors que son nom soit béni. Amen.